Bon, avant de plonger dans ton menu que tu m'as gentiment remis tantôt, là, as-tu des nouvelles de la réflexion du docteur Arruda sur l'algorithme, LNH?
Non,
CH.
Non, j'ai pas de nouvelles, Paul.
Le virus CH.
Je suis désolé.
On n'a pas de nouvelles?
Non, j'ai pas de nouvelles, mais t'as vu qu'il a bougé sur les bars.
Oui, ben hier, ça a sorti. Là. Il a dit, allez-y, vous pouvez fêter un peu plus tard.
Mais oui.
Jusqu'à 2h du matin, quand même.
Il est accommodant.
Oui, mais vous dansez pas, puis vous chantez pas.
Non, c'est ça. Puis si, c'est ça, exactement. Exact. Puis postillonnez pas trop votre encore, bière, là.
Encore.
Faites attention.
Puis cet été, vous serez dans un enclos à Trois-Rivières pour un beau spectacle avec une clochette dans le cou.
Bon, alors, est-ce qu'aujourd'hui, il va y avoir du neuf à 13h?
Bien là, la question va être posée
ben,
sur
c'est sûr,
le
ça
nombre
reste,
de
ça,
ben, spectateurs au Centre Bell.
Ben oui, ben oui.
Alors... Ça me fait penser au bal, tu sais. Il y a comme une commande, là, lui, là, à remplir, le docteur
Arruda. Oui, il y a un petit peu de pression politique.
Oui, une petite affaire.
Une petite affaire, oui.
Bon. Ottawa, c'est une grosse journée pour le dossier de la langue française.
Oui, exactement. Alors, la ministre Mélanie Joly va finalement déposer son projet de loi pour réformer la loi sur les langues officielles. C'est une loi, je vous le rappelle, qui avait d'abord été adoptée par Pierre-Éliott Trudeau, premier ministre, donc fin des années 60, début 70. Alors, c'est un projet de loi qui n'est pas banal, Paul, parce qu'il reconnaît pour la première fois que le français est la langue officielle au Québec. C'est la première fois que le gouvernement fédéral reconnaît, dans une loi, que le français, c'est la langue officielle au Québec. Projet de loi qui va renforcer aussi le droit de travailler en français au Québec dans les entreprises qui sont sous compétence fédérale. Si tu travailles dans une banque, tu travailles chez Air Canada, tu travailles chez Bell Canada. Donc,
ici, mon ami,
ben
nous
oui.
sommes de juridiction fédérale.
Absolument, absolument. Alors, le projet de loi de Mélanie Joly, donc, va renforcer le droit des employés de travailler en français. Une loi aussi qui va garantir le droit d'être entendu dans notre langue par la Cour suprême sans interprète. Ce qui veut dire, à toute fin pratique, que les juges de la Cour suprême vont devoir être bilingues dorénavant. Bon. Alors, c'est une avancée, Paul. On peut pas nier ça. C'est une avancée. Mais on peut pas nier non plus que la loi ne sera pas adoptée avant les prochaines élections. T'sais, elle dépose la loi, mais elle ne sera pas adoptée, la loi. Comme on peut pas nier que cette loi, ce projet de loi, est une pièce maîtresse de la stratégie libérale au Québec. Parce qu'il faut pas être naïf, là. Oui, il y a des libéraux à Ottawa, des libéraux du Québec en particulier, Mélanie Joly en est, puis j'en connais d'autres, qui sont sincèrement inquiets pour l'avenir du français, au Canada, mais en particulier au Québec. Il y a une, comment dire, il y a une préoccupation sincère, Paul, envers la langue. Faut pas être cynique là-dessus, mais il y a une préoccupation électorale aussi, là. Tu sais, je veux dire, lors de la dernière élection fédérale, la laïcité a fait perdre des plumes aux libéraux fédéraux lorsque Justin Trudeau a refusé d'écarter la possibilité que le fédéral se joigne à la contestation de la loi 21. Ça a permis au Bloc de se présenter comme les défenseurs des intérêts du Québec, puis de la loi 21, etc., etc. Là, les libéraux à Ottawa, les libéraux de Trudeau se sont dit, on va pas se faire faire le même coup sur la langue. Fait qu'on va aller l'occuper, le terrain linguistique, avec le projet de loi, donc, de Mélanie Joly. Bon. Alors, évidemment, c'est pas un projet de loi qui va aussi loin que ce que la CAQ voudrait. Parce que la CAQ, elle, ce qu'elle voudrait, ce que Simon Jolin Barrette propose, c'est que la loi 101 s'applique intégralement aux entreprises fédérales, ici au Québec. Mélanie Joly fait un bout dans cette direction-là, mais elle va pas aussi loin que ça. Bon, très bien. Mais elle en fait assez. Elle en fait assez pour dire aux Québécois, lors de la prochaine campagne électorale, gardez... On a pris nos responsabilités, puis on a posé des gestes pour renforcer le statut du français au Québec. Alors, vous comprenez que le Bloc, voyant ça, va pas se laisser couper l'herbe sous le pied.
Alors, que fera le Bloc?
Alors, le Bloc, il a déposé un projet de loi pour justement appliquer la loi 101 d'une manière intégrale aux entreprises de compétences fédérales. Projet de loi C-254, qui va être mis aux voix demain à la Chambre des communes. Et aujourd'hui, en plus du projet de loi de Mme Joly, la fameuse motion du Bloc sur la reconnaissance du Québec comme nation dans la Constitution canadienne, c'est aujourd'hui, Paul, que ça va être débattu en Chambre. Et ça va être voté demain, ça. Je te le rappelle, c'est la motion que Yves-François Blanchet a déposée, puis il n'a pas pu la faire adopter parce que Judy Wilson-Raybould...
Une personne qui refusait, là.
Et voilà, parce que ça prenait l'unanimité. Mais là, ils reviennent à la charge aujourd'hui. La motion va être débattue et va être mise aux voix demain. Et là, ça prend pas l'unanimité. Ça prend juste la majorité. Et tous les députés de la Chambre des communes, Paul, vont se prononcer demain. Ils vont voter à tour de rôle. Alors, ça va être bien intéressant.
Oui.
De voir qui sont les députés, parce qu'il va-tu y avoir des députés anglophones...
Absents.
Absents, ou même qui vont dire non. On peut déjà penser, évidemment, Wilson Raybould, elle va voter contre. Monsieur Sloan, l'ancien du Parti conservateur, va voter contre. Les deux députés du Parti vert vont voter contre. Puis là, j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va y avoir des dissidents chez les conservateurs, les libéraux, les NPD? On verra bien. Mais vous aurez compris qu'à travers tout ce foisonnement, cette effervescence autour de la langue, c'est la bataille du Québec. Et la bataille pour le Québec, donc, qui se profile derrière tout ça.
OK.
Et je note en passant, Paul, juste avant d'aller à notre prochain sujet, la langue est redevenue un enjeu politique. C'est redevenu payant politiquement de parler de la langue. Évidemment, c'est lié au fait que Legault a bougé là-dessus avec le projet de loi 96 de Simon-Jolin Barrette. Puis tu vois que la situation minoritaire des libéraux au Québec, libéraux fédéraux, fait en sorte qu'ils ont besoin de compter francophones, fait qu'ils ont besoin de parler aux francophones, donc la langue devient un véhicule intéressant sur le plan politique, puis ça crée une espèce de surenchère entre les libéraux puis les bloquistes. Fait qu'il y a une conjoncture politique qui est très favorable à la langue. Est-ce que ça va durer, Paul? Est-ce que ça va durer?
Tu connais l'expression en politique, 2 semaines, 2 ans, c'est pareil.
Si les libéraux déclenchent des élections puis reviennent majoritaires aux prochaines, est-ce que leur intérêt pour la langue va se maintenir ou est-ce qu'il va se tiédir?
Bonne question.
Je pose la question. On le souhaite pas, mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix d'inscrire ce qui se passe sur la langue dans le contexte préélectoral qui est le nôtre.
Parle-moi donc de cette entente maintenant entre Hydro-Québec et les Mohawks de Kahnawake.
Oh, que c'est un bon coup, Paul. C'est un bon coup. Un vrai coup de maître, en fait, d'Hydro-Québec et de la PDG Sophie Brochu. Alors, je vous résume. Hydro-Québec est sur les rangs pour exporter 10 milliards d'énergie verte sur 20 ans à la ville de New York. OK? Ça fait plusieurs fois que je t'en parle.
Oui.
Alors là, Hydro-Québec a déposé sa proposition et dans les prochains mois, il va falloir que la ville de New York décide si elle retient la proposition d'Hydro-Québec qui, évidemment, est en concurrence avec d'autres groupes. Pour vendre le courant aux Américains, à la ville de New York, il faut construire une ligne de 60 kilomètres jusqu'à la frontière américaine, de notre bord. 60 kilomètres de notre côté jusqu'à... Ça va longer, grosso modo, l'autoroute 15, vers le sud. Alors, c'est une ligne souterraine qui va aller se brancher sur la ligne qui va partir du côté américain, qui va passer sous le lac Champlain, sous la rivière Hudson, puis qui va rentrer au cœur de New York. Et là, cette ligne-là, de 60 kilomètres, ben les Hydro-Québec et les Mohawks de Kahnawake ont décidé qu'ils allaient la construire ensemble. Donc, la ligne de 60 kilomètres qui va amener le courant vers la frontière américaine devient une copropriété entre Hydro-Québec et la nation Mohawk, c'est la première fois, Paul, que ça se fait dans l'histoire d'Hydro-Québec qu'une ligne de transport devient un partenariat avec les Premières Nations. Alors, c'est un bon coup pour trois raisons, Paul. D'abord, sur le fond des choses, ça s'inscrit dans une logique de réconciliation, de dire, regardez, la ligne va passer sur le territoire que vous considérez votre territoire ancestral. C'est un territoire qui est revendiqué par la nation Mohawk de Kahnawake. Fait que on va s'asseoir avec vous, puis on s'entend, on va la développer ensemble, puis on va la construire ensemble. Deuxièmement, le fait d'avoir un partenariat autochtone rend la proposition d'Hydro-Québec plus attrayante pour les autorités new-yorkaises. Parce que tu peux dire, regardez là, écoutez pas ceux qui disent que le courant Hydro-Québec, puis les lignes d'Hydro-Québec, puis les barrages, ça s'est toujours fait à l'encontre des intérêts de la Première Nation. Voyez, on a une avec nous qui va construire la ligne pour vous apporter le courant. Donc, ça va leur donner des points, ça, dans l'évaluation de l'appel d'offres. Et troisièmement, Paul, ça devient plus embêtant pour les autres Premières Nations du Québec de dire que ce projet-là se fait à l'encontre de leurs propres intérêts. Parce que je te rappelle, dans le cas du projet pour exporter...
Il y a un certain nombre d'ententes qui existent déjà entre Hydro-Québec et les Premières Nations. Ce que je veux dire, c'est important, là, ce que mets sur la table ce matin, mais... Oui. Ça fait quand même plusieurs années qu'on arrive à trouver des partenariats de développement, pas toujours, mais...
Ben, on l'a vu, le plus bel exemple, c'est à Puyat.
Ben, c'est ça que j'allais dire.
À Puyat, le champ éolien, le projet éolien, dis-je. Mais j'allais te dire en terminant, L'autre projet d'exportation, comme tu le sais, c'est vers le Massachusetts.
Oui.
Ça passe par le Maine. Ce projet-là, il a été contesté par les nations autochtones Atikamekw, Innu et Anishinaabe. Devant la Régie de l'énergie du Canada, ils ont contesté l'émission du permis. Puis finalement, Hydro-Québec a eu son permis. Ils vont pouvoir construire la ligne pour amener le courant vers le Maine puis éventuellement vers Boston. On peut penser que dans le cas du projet de New York, les cinq nations dont je te parle, ben enfin les trois nations, mais sont cinq communautés, pourraient contester à nouveau l'émission du permis. Sauf que là, Hydro-Québec va pouvoir se présenter devant la Régie de l'énergie du Canada puis dire, regardez là, ils peuvent bien dire que c'est contre leurs intérêts, mais on a une nation autochtone avec nous autres dans ce projet-là. Là, c'est, politiquement, là, Sophie Brochu a beau dire qu'elle n'est pas politicienne, elle ne l'est pas. Mais dans ce cas-ci, elle fait de la belle politique.
Bon.
Je ne suis pas sûr qu'elle va être contente que je dise ça, mais c'est de la belle politique, Paul. C'est de la bonne gestion.
En parlant de politique, j'ai une petite question pour finir.
Oui, vas-y donc.
Qu'est-ce que tu penses de Maxime Bernier, toi? Parce que, sérieusement, là, moi, là, je le regarde aller, tu sais, je ne suis pas sur la même longueur d'onde, mais je connais à quelqu'un de droite l'idée de défendre des idées d'un État moins présent. Puis, tu sais, mais là, le délire de la tournée, puis les attaques, puis les arrestations, puis, tu sais, il fait un show, là, mais...
Il est en train de... Il ne restait plus beaucoup de crédibilité. Il est en train de gaspiller ce qui lui restait. Le peu qui lui restait, il a eu l'air d'un clown, honnêtement. Mais il a décidé de jouer son va-tout, Paul. Il a décidé qu'il était allé trop loin dans cette logique-là pour revenir, là. Fait que là, il a décidé d'aller au bout de sa logique, puis il va mourir avec.
Va disparaître. Vous avez, politiquement, là, c'est pas...
Honnêtement, là, je veux pas m'immiscer dans les affaires de famille, là, mais moi, son père, je l'ai observé, son père. J'étais à Ottawa comme correspondant, puis comme stagiaire parlementaire. C'est un gars sérieux. Son père était député de la Beauce, puis c'est un bon député. Puis il a beaucoup aidé Maxime. Il doit regarder aller son gars, puis il doit être découragé par moment.
Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, là?
Je suis désolé de le dire.
Okay. Ben, je voulais avoir ton point de vue là-dessus.
Ben, c'est fait.
Merci. Salut. 7h14. La 13, monsieur.